Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Comme je l'ai déjà dit, nous allons nous embarquer ce matin pour une étude sur la façon d'étudier la Bible, sur comment tirer le meilleur parti de votre Bible. Et pour commencer, je veux vous demander de vous tourner vers un passage de l'Ancien Testament, qui sera un point de départ pour nous. Jérémie, chapitre 8 et verset 9. Dans le ministère de Jérémie, l'une des missions les plus désagréables qu'il ait eues comme prophète était de parler contre les dirigeants de sa nation, qui avaient induit le peuple en erreur. Les prophètes avaient échoué, les prêtres avaient échoué, les scribes avaient échoué, les sages de la nation avaient manqué de les conduire à la vérité de Dieu et à la justice. Et je suppose que dans un sens, dans Jérémie 8-9, il y a un résumé de ce qu'est la tragédie d'un leadership incompétent. Le verset 9 dit « Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils ? » Ce que Jérémie dit ici, c'est que vous pouvez prendre tous vos dirigeants, tous les éducateurs, tous les experts en droit, en éthique et en morale, tous ceux qui sont responsables de vous enseigner la vérité divine, et les mettre dans une catégorie. Et cette catégorie est celle de la folie, parce qu'ils ont rejeté la parole du Seigneur. Quelle sorte de sagesse ont-ils ? L'implication ici est qu'ils n'en ont pas. La sagesse vient de Dieu. Elle vient à travers sa parole, et en dehors de sa parole, il n'y a pas de vraie sagesse spirituelle. Quand les dirigeants d'une nation, même la nation d'Israël, rejettent la parole du Seigneur, il n'y a pas de sagesse. L'été dernier, lorsque j'ai été invité en Nouvelle-Zélande, j'ai eu l'occasion de parler aux parlementaires néo-zélandais, au sein du Parlement. C'était une opportunité très intéressante et merveilleuse, et ils m'ont demandé d'aborder ce sujet. C'était le sujet demandé par le Parlement néo-zélandais. Qu'arrive-t-il à une nation qui abandonne la Bible, en tant qu'autorité, ou en tant que sa source de pouvoir ? Ils avaient assisté à ce qui s'est passé dans l'histoire des États-Unis. Ils avaient assisté au déclin des Écritures et de la Bible dans le domaine public de notre nation, et ils pouvaient le voir venir dans leur propre nation. Une nation essentiellement établie par des immigrants venus du Royaume-Uni, apportant des principes chrétiens et la vérité biblique, et ils suivaient la même voie fondamentale que nous suivions. Et ils voulaient savoir comment ça se passe quand nous abandonnons la Bible en tant que notre autorité. Et la réponse est ici même dans Jérémie 8-9. Quelle sagesse ont-ils ? Tout ce qu'il leur reste, c'est à voter sur la moralité, les études, les sondages, à commander 800 lignes, 900 lignes sur un sujet, et à donner leur avis et leur opinion pour qu'ils puissent former leur moralité. La sagesse concernant la vie spirituelle, le temps et l'éternité se trouvent dans la parole de Dieu. La Bible est la source et la seule source de la sagesse divine, et c'est une chose tragique de réaliser que la Bible subit l'assaut de temps. De tous côtés, il y a les rationalistes avec leur athéisme humaniste, anti-miracle, qui veulent nier l'existence de Dieu. Et s'ils tolèrent Dieu, Dieu n'est rien de plus que le Dieu d'Einstein, qui est une sorte de force impersonnelle et non personnelle. Il y a des existentialistes qui ont une mentalité anti-réalité, qui disent que vous pouvez créer votre propre réalité, vous pouvez concocter votre propre réalité. Vous pouvez former votre propre réalité et être heureux pour vous, quelle que soit votre réalité. Et puis vous avez l'assaut non seulement du rationalisme et de l'existentialisme, mais de l'égoïsme, qui est une mentalité anti-autorité, qui dit que personne ne me dira quoi croire, personne ne me dira ce qui est bien et mal, personne ne me dira comment me comporter. Je déterminerai cela pour moi-même. Ensuite, vous avez l'état d'esprit relationnel qui dit essentiellement que ce qui est le plus important est l'accomplissement de l'ego, l'épanouissement personnel, la résolution de mes problèmes personnels, l'estime de soi, se sentir bien dans ma peau. Cela aussi est une anti-vérité. Cela aussi est un anti-standard, un anti-absolu. Ensuite, vous avez l'approche ritualiste qui est une forme d'anti-connaissance de la religion, où la religion n'est pas une question de vérité ou de théologie ou de doctrine, mais simplement une question de rituel et de routine. Ensuite, vous avez le libéralisme théologique, qui est un anti-bible, une anti-inspiration. Puis vous avez le mysticisme, qui est un anti-intellectuel, qui dit simplement que vous ressentez Dieu, et que vous savez en quelque sorte qu'il est là, et que vous ressentez les mouvements de Dieu, et que vous ressentez la vérité. Toutes ces choses contribuent dans notre culture à une mentalité d'anti-autorité, qui contribue elle-même à une mentalité anti-bible. L'écriture est dépréciée par le rationalisme, l'existentialisme, l'égoïsme, le relationnisme, le ritualisme, le libéralisme, le mysticisme, probablement aussi par quelques autres ismes. Ce sont ces choses qui s'élèvent contre la Bible aujourd'hui. La gloire humaine en est le front principal, laissant l'homme être tout ce qu'il pense qu'il veut être pour qu'il s'accomplisse. C'est ce qui domine. Il n'y a pas d'autorité en dehors de l'homme. Le gouvernement lui-même a du mal à exercer son autorité, parce qu'il a donné tant de liberté personnelle aux gens. Cette approche de la religion, l'approche de la religion qui évolue dans cet environnement, est une sorte d'approche mystique, où vous êtes autorisé à croire tout ce qui vous fait du bien, quoi que vous pensiez que Dieu fasse. C'est sans aucun doute ce qu'il fait vraiment. Quoi que vous pensiez qu'il dise, c'est sûrement ce qu'il dit vraiment. Toutes ces choses attaquent l'autorité singulière et limpide de la parole de Dieu. Vous me direz alors, pourquoi parlez-vous de cela dans une série d'études sur la Bible? Parce que j'ai appris une chose au fil des ans, et cela m'est rappelé encore et encore et encore. La diligence avec laquelle vous abordez l'étude de l'Écriture, qui est si critique pour la bénédiction de votre vie, si critique pour votre joie, si critique pour votre utilité, si critique pour la gloire de Dieu. La diligence avec laquelle vous abordez cette étude critique de l'Écriture est directement liée à votre vision de l'Écriture, directement. Si vous avez une vision faible de l'Écriture, je vous promets que vous aurez un faible intérêt pour elle. C'est le sérieux avec lequel vous attachez à ce document qui est la première conviction pour vous motiver dans son étude. Les gens me demandent souvent comment je peux structurer ma vie pour passer autant de temps dans les Écritures. Comment est-ce que je peux me discipliner, disent-ils, souvent, pour donner tant de temps à l'étude de la parole de Dieu, y compris toutes les prédications et l'enseignement que je dispense, toute l'écriture des livres et l'écriture d'une Bible d'étude. Et c'est vraiment une bonne question, et je comprends pourquoi ils posent la question. Je vais peut-être vous surprendre en disant ceci, mais le problème pour moi n'est pas d'avoir la discipline pour étudier la Bible. Le problème pour moi est d'avoir la discipline d'arrêter et d'assister à d'autres choses qui sont sur mon agenda. Vous me direz pourquoi cela? Parce que je comprends ce que ce document est, à cause de la valeur que j'y mets, du poids que j'y mets dans ma vie, et que vous y mettez dans la vôtre. Je suis obligé de le faire. En fait, j'écris un petit ensemble de notes, de simples notes explicatives, au début de la Bible d'étude, et vous pouvez les lire quand vous en achetez une. Elles sont significatives. Je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai écrit, mais quelque chose à propos du fait que la difficulté pour moi ne résidait pas dans le fait de m'attacher à la parole tous les jours, ou de passer le temps nécessaire à écrire toutes ces notes et à creuser dans la parole de Dieu. La difficulté pour moi ce n'était pas ça. La difficulté pour moi, c'était de sortir de tout ça. Le défi pour moi, c'est de poser la Bible, parce que je la tiens en si grande estime, parce que je comprends ses richesses et ses trésors. Et comme le psalmiste l'a dit, ils sont plus précieux que l'or, ils sont plus doux que le miel. C'est votre point de vue sur l'Écriture qui est le fondement de toute votre capacité à répondre à l'Écriture avec beaucoup de diligence et de soin. Alors, comme nous voulons parler de comment tirer le meilleur parti de votre Bible, de comment étudier la Bible efficacement, nous devons commencer par nous assurer que nous comprenons ce qu'elle est, le trésor que vous tenez dans vos mains. Or, manifestement, aucune société ne peut survivre sans l'application de la vérité des Écritures, comme aucun individu ne peut survivre sans l'application de la vérité des Écritures. Le droit n'est pas déterminé par un concours de popularité, ni déterminé par un sondage. Il est déterminé par ce que Dieu a dit, et Dieu a parlé concernant le domaine moral, éthique et spirituelle, avec des termes très clairs. Aucune société ne survivra en adoptant l'abandon de la Bible comme norme, et la nôtre pas plus que n'importe quelle autre. Notre société continuera à se désintégrer, en une iniquité débridée, à un rythme rapide, jusqu'à ce que, et si, et à moins, devrais-je dire, qu'il y ait un retour à la parole de Dieu. C'est inévitable. La Bible affirme des choses incroyables à son propos. Je vais vous en donner 7. Ce sont des choses que la Bible affirme à son propos, et cela vous aidera fondamentalement à comprendre ce que vous avez à faire. Vous avez dans votre main un livre déjà divisé en 2 testaments. Le premier testament est divisé en 39 livres séparés, le second en 27, l'un appelé l'Ancien Testament, l'autre appelé le Nouveau Testament. Vous êtes familier avec ça. Vous êtes familier avec ces livres de la Genèse à Apocalypse et entre les deux. Mais comprenez-vous le caractère surnaturel de ce document? Ce n'est pas un livre humain, bien qu'il ait été écrit sur une période d'environ 1500 à 1800 ans, et qu'il y ait eu plus de 40 hommes différents dont la plume a été placée sur le parchemin pour écrire ces mots. Il est singulièrement écrit par Dieu, et les hommes qui ont écrit ces divers livres à divers moments, dans divers endroits, ont écrit sous l'inspiration directe de l'Esprit de Dieu, qui leur transmettait sa révélation divine, de son esprit à la plume, afin que soit produit ce qui est la véritable parole du Dieu vivant. Ce n'est pas un document humain, c'est un livre surnaturel, et elle fait quelques affirmations surnaturelles. Tout d'abord, elle prétend être infaillible, infaillible, c'est-à-dire que tout ce qu'elle affirme est absolument vrai. Si elle dit quelque chose au sujet de la peine capitale, et c'est le cas, alors ce qu'elle dit est vrai. Si elle dit quelque chose au sujet du mariage et du divorce, ce qu'elle dit est absolument vrai. Si elle dit quelque chose sur le culte, c'est absolument vrai. Si elle dit quelque chose de Jésus-Christ, c'est vrai. Si elle dit quelque chose sur la nature de l'homme, ce qu'elle dit est absolument vrai. Si elle dit quelque chose à propos de l'histoire de Tyr ou de Sidon, ou de l'histoire de Babylone, ou si elle dit quelque chose sur l'avenir d'une Babylone future, ou d'une bête, ou d'un antéchrist, si elle dit quelque chose à propos d'un homme appelé Pierre, ou d'un homme nommé David, ou d'un homme nommé Paul, ou si elle dit quelque chose sur un homme nommé Adam, qui avait une femme nommée Ève, et qu'ils avaient des enfants nommés Caïn, Abel et Seth, tout est vrai. Si elle dit quelque chose sur un jardin, tout ce qu'elle dit est absolument vrai, c'est infaillible. Et bien sûr, il en va de même pour le témoignage qu'elle donne pour elle-même, résumé dans le psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, la loi de l'Éternel est parfaite, elle ne contient aucun défaut. Le prophète dit que c'est comme l'argent testé 7 fois dans une fournaise, tout ce qui pourrait être perçu comme des scories est brûlé, et c'est absolument et purement vrai. Tout ce qu'elle dit historiquement est vrai, tout ce qu'elle dit prophétiquement est vrai, tout ce qu'elle dit spirituellement est vrai, tout ce qu'elle nous donne en termes de direction dans la vie est absolument vrai, c'est infaillible. C'est pourquoi elle a toujours été appelée la norme de la vie pour la foi et la pratique. 2. Elle est parfaite. Là, nous nous éloignons du contenu dans le sens où cela réaffirme la spécificité de la parole. Quand je dis qu'elle est parfaite, je veux dire que la Bible, dans sa rédaction originale, c'est-à-dire le document originel écrit par l'auteur inspiré, était sans erreur. Or, vous devez savoir que c'est un challenge. Écrire quoi que ce soit sans erreur est un challenge. Parfois, des gens venaient me voir en disant « As-tu relu cette partie de ton livre? Il y a beaucoup d'erreurs sur cette page. » Je ne sais pas si j'ai fait ces erreurs, ou la personne qui l'a entré dans l'ordinateur a fait ces erreurs. Si celle qui a corrigé a fait ses erreurs, si quelqu'un corrigeait autre chose et a tapé une erreur, ou s'il n'y en avait pas, je ne sais pas, mais je sais une chose, il est presque impossible d'écrire quelque chose sans erreur, surtout tout au long d'un ouvrage comme une Bible d'études. Je vous le dis, vous ne pouvez même pas imaginer le cauchemar d'une relecture de 25 000 notes de bas de page, point virgule, deux points, parenthèse, apostrophe, guillemets, en vous assurant qu'ils sont dans et hors de la bonne parenthèse, en vous assurant qu'il y a une normalisation dans tout ce que vous faites, et pensez que ce vaste volume contient près de 2 500 pages de matériel. Il a été relu, je suppose, au moins 12 fois, et il est relu encore 5 ou 6 fois par des professionnels, quelque part à Atlanta, qui relisent tout avec un peigne fin, et même eux ne peuvent pas tout relever. et quand nous vérifions ce qu'ils ont fait, nous trouvons des erreurs. C'est très difficile. Mais quand la parole de Dieu a été écrite, elle a été écrite sans erreur, parce que l'Esprit de Dieu l'a supervisée. Proverbe 30, versets 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu est éprouvée. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent, et que tu ne sois trouvé menteur. Vous savez, les scribes des premières années, de l'époque d'Esdras et antérieures, étaient si dévoués à ne pas commettre d'erreur dans les Écritures, qu'ils copiaient les Écritures avec une telle minutie qu'il est impossible de se le représenter. Certains scribes, vous aurez du mal à le croire, écrivez une lettre, prenez un bain, changez de vêtements, prenez un nouveau stylo, écrivez une autre lettre, prenez un bain, changez de vêtements, prenez un stylo, écrivez une autre lettre. Ils n'ont pas écrit beaucoup, mais ce qu'ils ont fait était correct. Il y avait une extrême implication à l'achèvement du texte parfait et à sa préservation. C'est pourquoi la découverte des manuscrits de la Mer Morte est si importante, parce que nous avions des parchemins datant du 8e ou du 9e siècle après Jésus-Christ, et nous nous appuyons beaucoup sur ces copies, de copies, de copies, de copies. Vous savez, la Bible a été copiée et recopiée. Les écrits originaux n'existent plus, ou s'ils existent, nous ne savons pas où ils sont. Donc des copies ont été faites et refaites. Les gens se disent, eh bien, il y a sûrement beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup, beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Et puis nous avons trouvé les manuscrits de la Mer Morte. Ils ont vérifié les manuscrits actuels qui sont utilisés pour les traductions de la Bible. Et nous avons vu que non seulement ils étaient identiques, ils n'étaient pas seulement identiques aux originaux, mais le travail de supervision du Saint-Esprit, ainsi que la rigueur attentive des scribes, avait préservé cette écriture à travers tous ces siècles. Depuis ses origines, elle est parfaite. Et c'est pourquoi il est aussi dit dans Proverbe 30, verset 6, que vous ne devez rien y ajouter, de peur d'être réprouvé et considéré comme un menteur. Elle est parfaite. En fait, dans l'Apocalypse, il est dit que vous ne devez rien y ajouter, ou qu'il vous sera ajouté les fléaux qui sont décrits dans ce livre, que vous ne devez rien y enlever, ou que votre nom sera retiré du livre de vie. L'Écriture est parfaite. Troisièmement, elle est achevée. Elle est achevée. C'est-à-dire que c'est tout ce que Dieu voulait inspirer, c'est tout. De la Genèse à l'Apocalypse, tous ces 66 livres suffisent. Deutéronome 4, 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Cela ressemble beaucoup à Apocalypse 22, et Jude 3 dit que c'est devenu la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Le contenu livré, une fois pour toutes aux saints. Le canon de l'Écriture, appelé canon, parce que c'est le mot pour norme, un mot qui vient du mot roseau, qui était utilisé comme outil de mesure. C'est donc la norme. Elle est complète. Il n'y a rien à ajouter. Quand Jean a écrit l'Apocalypse en 96 après Jésus-Christ, sur l'île de Patmos, alors que Dieu l'a lui révélé, c'était 30 ans après la fin du Nouveau Testament. C'en était l'achèvement. C'en était la fin. C'était le tout dernier dévoilement, appelé le livre de l'Apocalypse révélé, afin de fermer le canon de l'Écriture, qui avait commencé avec la Genèse. Elle est complète et achevée. Tout ce qui est nécessaire pour vivre, pour être pieux, et pour toute la connaissance spirituelle est ici. Ceci est une Écriture achevée. Il n'y a pas besoin de science ou de santé comme clé des Écritures. Il n'y a pas besoin du livre des Mormons, des doctrines ou d'alliances. Il n'y a pas besoin des Écritures de Madame Blatowski, du juge Rutherford, d'Annie Besant, ou de n'importe qui d'autre. La parole de Dieu est complète. Il n'y a pas de révélation plus inspirée au-delà de cela. C'est une fois pour toutes que Dieu l'a livrée à la foi des saints. Et toute l'Écriture est inspirée par Dieu, n'est-ce pas? Selon 2 Timothée, chapitre 3 et verset 16. 2 Pierre 1, 21 nous dit aussi « C'est, poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est en aucun cas de leur propre chef. Cela vient de Dieu. Elle est infaillible, parfaite et achevée. Quatrièmement, elle fait autorité. Elle fait autorité. C'est-à-dire que quand elle parle, tu ferais mieux d'écouter. Ce n'est pas un livre de suggestion. Ce n'est pas un livre à mettre au niveau des autres livres. Ce n'est pas un livre à comparer aux écrits de Confucius ou de Bouddha, ou de quelqu'un d'autre comme Mohammed. Ce n'est pas un livre à comparer avec les écrits d'autres éthiciens à travers les âges. Ce n'est pas un livre à comparer avec d'autres écrits ou révélations religieux. ou à mettre à côté d'Aristote et de Platon, ou les écrits d'autres philosophes. Elle seule fait autorité. Ésaïe 1:2 dit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Tu ferais mieux d'écouter. Dieu a parlé. » Psaume 119:89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ce livre fait autorité. Il se présente comme un commandement, comme nous l'avons vu dans le psaume 19. Cinquièmement, la parole est suffisante. Elle est suffisante. C'est tout ce que Dieu voulait nous dire. C'est tout ce que Dieu a voulu révéler à travers l'inspiration qu'il a donnée. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. À nouveau dans 2 Timothée 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Elle est suffisante. Rien de plus n'est nécessaire pour vivre une vie spirituelle que la parole. Or, nous avons besoin de comprendre cette parole, et de nombreux livres nous aident à la comprendre. Mais toute la vérité spirituelle nécessaire à la vie et à la piété se trouve dans ce livre. Parfois, j'entends des gens dire « En fait, il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques si sévères qu'ils ne peuvent pas commencer le processus de sanctification à moins de recevoir d'abord une aide psychologique. C'est de la folie. La Bible n'attend pas que la sagesse humaine puisse agir en premier. C'est assez clair pour qu'un homme de Dieu puisse être parfait, complètement préparé pour agir en bien. Sixièmement, elle est efficace. Elle est efficace. En d'autres termes, elle est puissante. Mais efficace est un terme un peu plus direct. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'elle influe sur la vie. Elle accomplit le dessein divin. Ésaïe 55, 11 et 12. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole ne revient jamais sans effet. Elle accomplit toujours le but pour lequel Dieu l'envoie. À travers les Écritures, Dieu nous dit « J'accomplirai la totalité de mon bon dessein. Qui va m'arrêter? Qui va m'empêcher d'accomplir ma parole ?» Lors du sermon sur la montagne, Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Jésus dit lui-même qu'il est venu pour accomplir la parole, pas pour l'écarter. Elle est efficace. Partout où elle est, elle pénètre puissamment. Elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à l'âme et l'esprit, les articulations à la moelle, tel un révélateur des pensées et des intentions du cœur. Elle pénètre jusqu'au cœur. Elle entre profondément. Elle est efficace. Pour certains, c'est une bouée de sauvetage pour la vie. Pour d'autres, une bouée de sauvetage contre la mort. Mais elle est puissante. Elle atteint parfois le but de Dieu pour la grâce et parfois pour le jugement. Ce que Dieu dit va arriver. Sa parole sera toujours accomplie. Finalement, elle est déterminante. Elle est infaillible, parfaite, achevée, fait autorité, suffisante, efficace et déterminante. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la parole de Dieu qui sépare les hommes et les femmes. C'est la parole de Dieu qui devient la ligne de démarcation entre ceux qui sont dans le royaume de Dieu et ceux qui en sont exclus. C'est la parole de Dieu qui distingue entre le sauvé et le perdu. C'est la parole de Dieu qui distingue ceux qui iront au paradis et ceux qui passeront l'éternité en enfer. C'est la parole de Dieu qui sépare ceux qui sont les enfants de Dieu de ceux qui sont les enfants de Satan. La parole de Dieu est le facteur déterminant. Vous me direz, que voulez-vous dire? Écoutez les paroles de Jésus. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. L'indifférence à la Bible est un cadeau mortel. L'indifférence envers la vérité biblique est un cadeau mortel qui atteste que l'on n'appartient pas à Dieu. Si vous appartenez à Dieu, vous entendez la parole de Dieu. Jésus dit ainsi, « Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Il est naturel pour un être humain de chercher de l'oxygène. Il est naturel qu'une nouvelle création en Christ recherche la vérité de Dieu. Une personne peut prétendre être chrétienne, mais si elle n'a aucun intérêt pour les Écritures, vous avez le droit de remettre en question son affirmation, parce que l'attitude envers la parole de Dieu est une réalité déterminante. C'est la parole de Dieu. Rien que dans l'Ancien Testament, il y a plus de 2000 affirmations faites par les Écritures qui disent que c'est la parole de Dieu. Et le Nouveau Testament ajoute encore à cela. C'est la parole de Dieu. En tant que tel, c'est le facteur déterminant. Si vous entendez la parole de Dieu, vous lui appartenez. Si vous n'entendez pas sa parole, vous ne lui appartenez pas. En fait, si vous ne pouvez pas comprendre la Bible, que c'est un livre inutile pour vous, que c'est un labyrinthe et un brouillard, alors vous êtes un simple être humain qui ne comprend pas les choses de Dieu, parce qu'elles sont spirituellement discernées. Mais si la parole de Dieu illumine votre cœur et ouvre votre esprit, si elle vous apporte de la joie dans votre cœur, comme le psalmiste l'a fait remarquer, et si elle prend votre simplicité et la transforme en sagesse, alors l'esprit est vivant en vous. Vous appartenez à Dieu et vous entendez sa parole. Alors, bien-aimés, à partir de là, nous commençons à comprendre de quoi nous parlons. Nous avons affaire à un document surnaturel qui est absolument vrai dans tout ce qu'il affirme, c'est-à-dire parfait en chaque mot, qui est achevé, auquel il ne manque rien. Vous n'avez besoin de rien d'autre pour recevoir la révélation inspirée de Dieu. La parole fait autorité, c'est-à-dire qu'elle parle tel un commandement. Elle est suffisante. Elle contient tout ce dont vous avez besoin pour toutes les questions de la vie spirituelle. Elle est efficace, c'est-à-dire, où qu'elle soit diffusée, elle agit avec puissance et impact, et elle accomplit toujours ce que Dieu veut qu'elle accomplisse. Et enfin, elle est déterminante quand il s'agit de savoir à qui vous appartenez ou dans quel royaume vous existez. Le peuple de Dieu écoute sa parole. Vous pouvez sonder un peu votre cœur pour savoir où vous en êtes à ce sujet. Pour résumer tout cela, Josué 1:8, l'un des grands passages de l'Ancien Testament qui exalte l'Écriture, nous dit « Que ce livre de la loi, il se réfère à l'Écriture, ne s'éloigne point de ta bouche. » Cela devrait être le sujet constant de notre conversation. Pourquoi? Parce que tu dois le méditer jour et nuit. Or, quoi que ce soit le sujet auquel vous pensez de jour comme de nuit, cela paraîtra dans votre conversation. Donc il dit que vous devez être dominé par la parole de Dieu. C'est la chose dominante dans votre vie. Elle devient la méditation dominante dans votre vie conversationnelle. C'est alors dans l'action qu'elle parle, afin que vous puissiez faire attention à tout ce qui y est écrit. Vous méditez dessus, vous en parlez, et bientôt vous commencez à la vivre. Alors vous ferez de votre chemin un chemin prospère, puis vous aurez du succès, mais vous devez agir selon tout ce qui y est écrit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas faire tout ce qui est écrit, parce qu'ils ne le comprennent pas. Et c'est pourquoi il nous incombe d'étudier l'Écriture, afin que nous puissions la comprendre, afin que nous puissions le faire, afin que nous puissions être bénis et prospères, et avoir du succès. Nous voici donc engagés en tant que chrétiens, totalement engagés dans un monde de gens, non seulement indifférents, mais franchement hostiles à la Bible. Elle n'est pas une norme que ce monde veut accepter. Elle n'est pas une norme que notre nation veut accepter, et c'est tragique. Afin de dénier la Bible, ils doivent se comporter de manière schizophrénique. Je vais vous montrer ce que je veux dire. La plupart de notre vie est construite sur des lois fixes. Je veux dire, nous fonctionnons comme ça tout le temps. Prenez le champ scientifique lui-même, qui est derrière une si grande partie de notre vie. Il est derrière ce que nous mangeons, derrière ce que nous portons, derrière ce que nous conduisons, derrière ce que nous vivons, derrière tout ce qui participe aux services de santé pour lesquels nous nous engageons à nous améliorer ou à nous maintenir en bonne santé. La science est derrière tout cela. La science est simplement un moyen par lequel nous traitons avec le monde physique, l'environnement physique. Et toutes ces transactions scientifiques qui se déroulent dans le domaine physique sont liées à des points de fait fixes, à des réalités différentes, qu'il s'agisse de la biologie, de l'anatomie, de la botanique, de la physiologie ou de l'astronomie. Peu importe de quoi vous parlez, que vous parliez d'ingénierie, en termes d'ingénierie architecturale, de génie mécanique, de toutes sortes de fonctions dans le domaine physique, avec des propriétés physiques, reposent sur des lois fixes et fiables, inaltérables. Depuis la chirurgie la plus minutieuse, qui repose sur la connaissance selon laquelle le corps a la capacité de répondre d'une certaine manière à ce genre d'invasion, s'il est pris en charge d'une certaine manière, jusqu'aux macros éléments, qui entraînent les mouvements dans l'espace, avec des gens qui savent parfaitement bien ce qu'ils vont faire, comment ils vont se comporter et comment ils vont revenir à un point fixe sur cette terre, parce qu'il y a des lois inviolables qui opèrent dans l'univers d'une manière invariable, et elles fonctionnent sans aberration. Et ainsi notre monde est attaché à la nature immuable du monde physique. mais il s'éloigne du domaine moral et de son contenu par le chaos et s'engage dans une sorte de schizophrénie immédiate dans laquelle il est dit que nous vivons dans un monde dont l'ordre physique est fixe, absolument immuable, mais qu'en est-il moralement? Eh bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ils choisissent le chaos et rejettent les absolus. Tout système éthique qui vous convient, vous pouvez l'appliquer comme vous voulez, être ce que vous voulez, vous comporter comme vous voulez et rester en harmonie dans votre vie. Non, vous ne le pouvez pas. Vous brisez les lois scientifiques du monde physique et vous obtenez des résultats négatifs. Vous enfreignez les lois morales du monde spirituel et vous obtiendrez également des résultats négatifs. Il y a une morale établie dans ce monde qui est fixe, tout comme il y a des lois dans le monde physique qui sont fixes et qui, si elles sont violées, ont des conséquences graves. Il y a des lois dans le monde moral qui sont fixes et si elles sont violées, elles ont des conséquences beaucoup plus graves. Mieux, dit Jésus, mieux vaut que vous détruisiez votre corps que votre quoi, votre âme. Ne craignez pas ceux qui détruisent le corps, mais craignez celui qui détruit l'âme. Nous prenons un tel soin d'agir dans le cadre des lois scientifiques pour préserver notre corps. Nous construisons des bâtiments, ces bâtiments massifs que sont les gratte-ciels, avec toute la science de l'architecture, afin qu'ils ne s'effondrent pas et n'écrasent pas tous les gens qui s'y trouvent. Nous construisons de grands navires qui plongent dans les profondeurs de l'océan, construits selon les normes de navigation et les normes de flottaison, et tout ce genre de choses pour préserver la vie de ces gens, avec beaucoup de soin. Et pourtant, nous vivons en totale relativité morale, ce qui est tout simplement contraire à tout ce que nous savons du fonctionnement de l'univers. Pourquoi les hommes font cela? Parce qu'ils aiment leur péché. Voilà pourquoi. C'est la seule raison. Et non parce que c'est logique. Les gens me demandent toujours, comment le sida s'intègre-t-il à cela? Le sida est la conséquence de la violation de la loi morale. Vous comprenez ça? Vous violez la loi morale. Vous avez une maladie vénérienne. C'est ce que Paul voulait dire quand il disait, vous péchez contre votre propre corps lorsque vous vous unissez à une prostituée, lorsque vous commettez la fornication et l'adultère. Le monde antique était en proie à la maladie vénérienne. Les gens sont morts dans une sorte de pandémie, une sorte d'épidémie de masse à cause des maladies vénériennes. Ce n'est pas différent du sida. C'est simplement la conséquence inhérente à une violation continue de la loi morale. Vous savez, ça me sidère. Je regarde ce mouvement massif contre le tabagisme qui se passe dans notre pays. Vous avez observé ça. C'est motivé par deux choses. Premièrement, c'est motivé par la gauche qui déteste le monde de l'entreprise. Elle déteste ces conglomérats qui ont tant d'argent, comme la Reynolds Tobacco Company et les autres, qui sont des sociétés aux multiples facettes et qui ont de nombreuses entreprises différentes. Mais la gauche les déteste parce qu'ils représentent l'établissement capitaliste, alors elle veut les abattre. Beaucoup d'entre eux ne sont pas si préoccupés par le tabagisme. Ils sont juste concentrés à détruire ces grandes institutions. Mais il y a ceux qui sont très conscients du fait que fumer est mauvais pour la santé, et je suis tout à fait d'accord avec cela. Je ne pense pas, comme je l'ai dit, que fumer soit un péché, mais j'ai observé la façon dont ces publicités sont devenues de plus en plus crues. J'en ai vu une l'autre jour qui était si crue que c'en était vraiment une chose très écœurante à voir. Il y avait une dame, il l'avait éclairée en noir et blanc, pas en couleur, de telle manière que cela la faisait paraître presque morte, et elle parlait avec cette voix grinçante et rauque sur le tabagisme. Puis elle prenait une bouffée dans un trou de trachéotomie, à travers un trou dans sa trachée, et elle soufflait la fumée de sa cigarette au même endroit, parce que le reste de sa gorge avait pourri. Et ensuite, elle a continué en disant « Vous savez, c'est ce que le tabagisme fait pour vous. Je comprends tout cela. Il y a donc ce mouvement massif, massif pour empêcher les gens de fumer, parce que cela affecte physiquement leur santé. En même temps, il y a une escalade simultanée et tout aussi agressive de la normalisation de l'homosexualité, qui a produit une maladie qui a massacré des gens partout dans le monde. Comment peuvent-ils faire ça? Comment peuvent-ils commettre ce genre de schizophrénie? Parce qu'ils aiment leur péché, au plus profond d'eux-mêmes. Et quand ils décident qu'ils vont évoluer dans un monde immuable, dans le domaine physique, et qu'ils vont évoluer dans un monde aléatoire dans le domaine moral. Ils commettent un suicide spirituel. C'est ce qu'ils font. Vous voyez la même chose dans les lycées. Toutes ces affiches partout essayant de prévenir la drogue. et à côté de celle-ci, vous pouvez prendre votre préservatif. Si vous avez le choix dans le péché, je pense que beaucoup d'enfants optent pour le préservatif et oublient les drogues. Ce genre de schizophrénie existe parce que nous ne voulons pas vivre dans un royaume moral fixe, et c'est précisément ce que Dieu a conçu et révélé ici. Il y a une moralité construite par Dieu dans le monde qui est fixe, et quand elle est violée, elle apporte des résultats tragiques. Et l'Écriture nous le dit, il existe des lois absolues. C'est un livre incroyable. Quand nous nous plongeons dans ce livre, nous pouvons dire « Eh bien, ok, mais c'est seulement un livre spirituel. Eh bien, laissez-moi oser un peu. Le même Dieu qui a ordonné la science a écrit ce livre, et chaque fois qu'il parle de choses scientifiques ou de questions dans le monde physique, il parle avec précision. Rappelez-vous ce que je vous ai dit plus tôt, que tout ce qui y est dit est infaillible. Ce n'est pas seulement un livre sur les choses spirituelles. C'est un livre sur beaucoup de choses, beaucoup de choses. En fait, ce livre dont l'auteur est Dieu, surnaturellement écrit et transmis par des écrivains inspirés, qui ont écrit chaque mot sans erreur, sous la supervision du Saint-Esprit. Ce livre surnaturel écrit par Dieu pour traiter des questions spirituelles, chaque fois qu'il traite la science, est absolument exact, parce que Dieu connaît ce monde aussi bien qu'il connaît le spirituel, n'est-ce pas? Il présente la seule explication viable concernant l'univers. La création, le catastrophisme, la création instantanée en 6 jours, le déluge, remaniant la surface de la Terre, expliquant toutes les formations fossiles, expliquant toutes les strates dans les rochers, expliquant tout. C'est tout ce dont vous avez besoin pour l'expliquer. C'est absolument, scientifiquement, exact. La Bible affirme l'une des lois fondamentales de la science qui s'appelle la première loi de la thermodynamique. La première loi de la thermodynamique, qui est la conservation de la masse et de l'énergie. C'est-à-dire que toute masse et toute énergie qui existe se perpétuent. En d'autres termes, d'un point de vue évolutionniste, ils nous disent « Eh bien, une fois qu'on a ce petit bout de masse et ce petit peu d'énergie, ça continue à grandir, et grandir, et grandir, et grandir, et grandir, et grandir. » Ce que la science sait, cependant, si elle est honnête, avec les données collectées, c'est que la masse et l'énergie existent et qu'elles sont maintenues à leur quantité d'origine. Il a été créé avec une quantité de départ et ce taux n'a pas bougé. Cela peut être expliqué par la création. Cela peut être expliqué par les Écritures. L'énergie ne disparaît pas de l'existence. La masse ne disparaît pas. Elle altère ses formes, mais ne disparaît pas de ce monde. Écoutez ce que dit Ésaïe, Ésaïe le prophète, verset 26 du chapitre 40. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Il y a là conservation de la masse et de l'énergie, la première loi de la thermodynamique. Néhémie 9:6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Ecclésiaste 1:10. S'il est une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau. » Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. La Bible sait tout ça. La Bible fait également état de la deuxième loi de la thermodynamique. La deuxième loi de la thermodynamique dit ceci. Alors qu'il y a conservation de la masse et de l'énergie, les atomes qui composent cette masse et cette énergie tendent vers le désordre, se décomposent en chaos, de sorte que plus l'univers existe dans la durée, plus il devient chaotique. J'attends qu'un scientifique prenne le contrôle et l'applique à l'étude de choses comme le cancer. Je me demande parfois si l'escalade du cancer ne fait pas partie de la mise en œuvre du début du chaos, de l'ordre structuré normal des atomes, alors qu'il commence à s'effondrer. Qui sait quelles autres choses peuvent venir? C'est purement une hypothèse personnelle. Mais il y a une décomposition de l'ordre dans le désordre, la décomposition de la structure dans le chaos. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. C'est la loi du désordre croissant. Et elle réfute l'évolution seule, parce qu'elle dit que les choses partent de l'ordre et vont au désordre. Elles ne partent donc pas du désordre pour atteindre l'ordre. Vous me direz, alors pourquoi croient-ils en l'évolution? Parce qu'ils ne veulent pas d'un Dieu qui soit créateur, parce que s'ils ont un Dieu créateur, ils savent qu'il y a des lois morales et qu'ils devraient vivre selon celles-ci ou être sous son jugement. Donc le moyen le plus simple est de l'éliminer de l'équation, pense-t-il. Il n'y a jamais de perte de masse réelle, il n'y a jamais de réelle perte d'énergie, mais il y a une capacité décroissante à produire parce qu'elle se décompose et que l'ordre devient désordre. Tous les processus finissent par s'arrêter, par cesser, et l'univers finit par disparaître. La Bible est assez claire à ce sujet. Dans Romains 8, elle nous le présente en termes très clairs. Écoutez ce que l'apôtre Paul a écrit avant que n'importe quel savant ne l'ait inventé. La création a été soumise à la vanité. En d'autres termes, il y a eu un moment dans le temps, lors de la chute de l'homme, où la création a été maudite et soumise à un processus de futilité ou de vide, non de sa propre volonté, mais à cause de celui qui l'y a soumis avec espérance. Quand Dieu a créé le monde à l'origine, il possédait la perpétuité et l'ordre, mais à cause du péché et de la malédiction, il est maintenant fait de désordre et a été soumis par Dieu à la futilité. La création elle-même est alors esclave de la corruption. Et le verset 22 de Romains 8 dit qu'elle soupire et souffre des douleurs de cette corruption. L'univers entier connaît ce désarroi. Quand la Bible parle de choses scientifiques, elle est extrêmement précise à leur sujet. Je pense à quelque chose que j'ai étudié avec intérêt quand j'étais étudiant en hydrologie. L'hydrologie est essentiellement la science de l'eau et de son cycle. Et même s'il nous est très facile de le comprendre, ce n'est qu'au XVIIe siècle que les hommes ont commencé à comprendre ce qu'était réellement le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est très simple. Trois mots vous apprendront le cycle de l'eau. L'évaporation, la condensation et la précipitation. Voilà le cycle de l'eau. De la grande mer à la terre, l'eau s'évapore. Condensée dans des nuages, portée sur la terre, tombée sous forme de pluie ou de neige, elle redescend vers la mer, d'où elle s'évapore. Se condense et tombe à nouveau. C'est le cycle de l'eau. Et il n'y a pas de nouvel apport d'eau, les amis. Je pense que vous le savez. Il n'y a pas de nouvel apport d'eau en cours de création. Certaines personnes pourraient penser que lorsqu'elles ouvrent leur robinet, de l'eau nouvelle est créée. Non, il n'y a pas de nouvelle eau ici. Il n'y a que le processus d'hydrologie de Dieu, la mer, l'évaporation, les nuages, qui se déplacent vers les terres. Pluie, neige tombent sur la terre, se précipitent dans les ruisseaux dans les rivières dans la mer, et c'est le cycle. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que cela fut découvert. Jusque-là, la théorie dominante était qu'il y avait des réservoirs souterrains qui continuaient à produire de l'eau. Nous savons maintenant que même l'eau souterraine est dans ce cycle hydrologique et qu'elle se crée par infiltration. Vous me direz, eh bien, que dit la Bible à ce propos? Lisez Isaïe 55, verset 10. Lisez Ecclésiaste 1. Lisez Job 36, versets 27 et 28. Job est le livre le plus ancien de la Bible et décrit l'évaporation et la condensation. Chaque fois que Dieu parlait de quelque chose de scientifique dans sa parole, c'était clair. Ésaïe 55, 10 vous explique le cycle de l'eau. Il existe aussi une étude fascinante en astronomie. Les vieilles idées sur la Terre et sur le système solaire étaient très très étranges. La plupart des gens pensaient que la Terre était comme un CD. Vous savez, un disque plat, circulaire, c'était l'idée. Lorsque Copernic est arrivé, entre 1473 et 1543, il a présenté l'idée que la Terre était en mouvement. Et quand il a dit ça, bien sûr, les gens ont tout d'abord pensé qu'il était fou, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter l'idée. Quand il a dit que la Terre était en mouvement, ils ont été étonnés et abasourdis. Mais finalement, ils l'ont accepté et bien sûr, c'était vrai. Des hommes comme Brahe, Kepler et Galilée, au XVIIe siècle, ont alors commencé à donner naissance à l'astronomie moderne. Et l'astronomie moderne a été vraiment mise en place au XVIIe siècle. Jusqu'au point où Hippocrate, un grand esprit, détermina qu'il y avait 1022 étoiles. Ptolémée a renchéri. Non, il y en a 1056. Kepler a dit, vous avez tort tous les deux. Il y en a 1055. Pourquoi n'ont-ils pas lu Jérémie? Jérémie nous dit dans Jérémie 33, 22 qu'elles ne peuvent pas être comptées. Vous feriez mieux d'abandonner, les gars. Elles ne peuvent être comptées. Maintenant, nous savons qu'il y en a 100 milliards dans notre galaxie. Et il existe des milliards de galaxies. Job, le livre le plus ancien de la Bible, nous dit « Dieu suspend la terre sur le néant, Comment savait-il cela? Un livre ancien oriental dit que c'est sur 7 couches de sucre, de miel et de beurre. Heureusement, nous ne sommes pas du côté gluant. La Bible dit « Il suspend la terre sur le néant ». Le livre le plus ancien de la Bible dit qu'il transforme la terre comme l'argile qui reçoit une empreinte. Que signifie transformer la terre comme l'argile qui reçoit une empreinte? Dans les temps anciens, ils avaient un morceau d'argile molle, et ils prenaient un bâton et y écrivaient des documents légaux, ou ce genre de choses, avant le passage à d'autres matériaux. Et bien souvent, même avec le développement de papyrus et d'autres supports d'écriture, ils l'utilisaient encore. Ils ont utilisé ces tablettes pour inscrire des documents permanents. Et puis, quand ils voulaient le signer, ils avaient un cylindre avec une signature en relief, et ils le faisaient rouler sur l'argile, avec 2 traits qui marquaient la fin. Et quand Job dit « La terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte », il dit simplement qu'elle tourne sur un axe. Comment le savait-il? Job dit que Dieu régla le poids du vent. Ce n'est que vers le 17e siècle que tout le monde a compris que le vent avait du poids. Une autre science intéressante est l'isostasie. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et cela m'a aussi fasciné quand j'étais étudiant. L'isostasie est la théorie de l'équilibre de la Terre. Vous n'avez jamais acheté une balle en caoutchouc à votre petit qui ne tournait pas rond et qui roulait de ci, de là. Eh bien, pouvez-vous imaginer ce que nous ferions à longueur de temps si la Terre n'était pas en équilibre, ou si elle rebondissait jusqu'à 1 mètre avant de redescendre? Nous ne pensons pas à des choses comme ça, mais si cette chose tourne dans l'espace à 7 vitesses, et tourne sur son axe, alors qu'elle vole dans cette orbite, il va falloir être dans un équilibre absolument parfait pour garder la loi de gravité constante à chaque instant. Dieu connaît l'équilibre de la Terre, tout comme Ésaïe. Écoutez ce qu'Ésaïe nous dit, au chapitre 40, verset 12. « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main ?» En d'autres termes, il connaît le poids de l'eau. « Qui a pris la dimension des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans 1/3 de mesure ?» Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Dieu seul. Dieu connaît l'équilibre de cette sphère catapultée à travers un univers sans fin. La découverte scientifique n'a rien rapporté de cela à l'époque d'Ésaïe. Dieu le lui a révélé. Et puis, il y a eu un homme qui est mort en 1903, je crois, Herbert Spencer. Herbert Spencer était un scientifique brillant. Il était un scientifique très acclamé, parce qu'il avait fait une découverte unique. Il avait découvert la classification du connaissable, c'est-à-dire qu'il avait établi la classification de tout ce qui existe. Il affirmait que tout ce qui existe, tout ce qui est connaissable, peut tomber dans 5 catégories. Il a gagné un super prix et des récompenses, parce qu'il a tout réduit à la catégorisation. Il a affirmé ceci, et c'est dans l'ordre selon lequel Herbert Spencer les a cités. Il a dit « Tout ce qui est connaissable » entre dans ces 5 catégories. Le temps, la force, l'action, l'espace et la matière. Tout existe dans l'une de ces 5 catégories. Le temps, la force, l'action, l'espace et la matière. Eh bien, Herbert a très bien fait. Mais Herbert était vraiment très en retard pour affirmer quelque chose que le premier verset de la Bible a rendu clair. Genèse 1:1. Au commencement, c'est le temps. Dieu, c'est la force. Créa, c'est l'action, les cieux, l'espace, et la terre, c'est la matière. Chaque classification du connaissable est citée dans le premier verset de la Bible. Le génie de l'Esprit de Dieu est au-delà de tout ce que l'homme ne pourra jamais concevoir. Donc, quand la Bible parle du domaine scientifique, elle ne parle pas par ignorance, elle parle avec précision. Vous savez ce qu'il faisait aux malades il y a peut-être 100 ans ou plus. Quand quelqu'un tombait malade, était malade, il le prenait et vous savez ce qu'il faisait? Il pratiquait une saignée. Il vous faisait une saignée. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent du sang, parce qu'ils ont finalement compris ce qui était dit dans Lévitique 17:11, car l'âme de la chair est dans le sang. C'est ce qui porte notre vie. Ils étaient intelligents, hein? Prélever du sang sur des personnes déjà malades. Vous savez, quand vous parlez de la science, et que vous regardez la parole de Dieu, vous allez trouver que Dieu en sait autant à ce sujet qu'il en sait dans le domaine moral. Et il nous a laissé ces quelques petits points précis dans les Écritures, juste pour que nous remettions jamais en question sa connaissance de la vérité. Je crois cette Bible. Je la crois. Elle est scientifiquement exacte. et cela renforce ma foi. Mais je ne la crois pas parce que c'est scientifiquement exact. Je la crois parce que Dieu m'a donné la foi pour la croire. Je suis ce qu'on appelle un apologiste présupposé. C'est un peu long comme terme, n'est-ce pas? Apologiste présupposé. Un apologiste est une défense ou un défenseur. Je défends la Bible, non pas comme un présupposé. C'est-à-dire que je n'essaie pas de prouver Dieu par la Bible. Je présuppose Dieu. Je pense que vous commencez avec la cause et vous regardez les faits. Vous ne commencez pas avec les faits et essayez de trouver la cause. Et la seule façon de vraiment connaître et croire au vrai Dieu, c'est avec l'esprit de ce Dieu. Dieu vous a donné la foi pour croire en lui, parce que vous croyez en lui, vous croyez sa parole. J'ai vu des gens qui sont des évolutionnistes depuis un long moment, qui viennent à Christ et s'engagent immédiatement sous l'autorité de l'Écriture. Comment? C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur humain. Eh bien, me direz-vous, eh bien, qu'en est-il de toutes ces apologétiques, de la science et tout ça? Qu'est-ce que cela apporte? Cela renforce les chrétiens. Cela donne une raison à la foi. Mais la foi est un don de Dieu, n'est-ce pas? Je regarde ma Bible et quelqu'un me dit, eh bien, comment savez-vous que vous pouvez faire confiance à tout ce qu'il y a dans la Bible? Ce n'est que de la morale. Eh bien, chaque fois que vous lisez les éléments scientifiques qui s'y trouvent, vous savez que c'est exact. Et les prophéties de la Bible? Waouh, 150 ans avant sa naissance, la Bible a prédit qu'un homme nommé Cyrus viendrait. 150 ans avant sa naissance. Et il le nomme, et il dit qu'il deviendra le chef à Babylone, et qu'il laissera les Israélites retourner dans leur pays. Ésaïe 44, 28. Il va faire un décret et leur permettre de retourner reconstruire Jérusalem. Et 150 ans plus tard, il l'a fait, et s'appelait Cyrus. Comment Ésaïe le savait-il? Il ne pouvait pas le savoir. Comment pouvait-il le savoir alors qu'il n'était pas né 150 ans auparavant? Comment pouvait-il prédire ce que les non-nés feraient? Il ne le pouvait en aucune façon. Seul Dieu contrôle l'histoire comme ça. Une des grandes villes du monde antique était une ville appelée Tyre, qui était sur la côte nord de la terre de Palestine. Ézéchiel, au chapitre 26, le prophète Ézéchiel a prédit que Nabuchodonosor viendrait au verset 7 de ce chapitre, que Nabuchodonosor, le grand empereur babylonien, viendrait et détruirait la ville. Il a prédit que Nabuchodonosor détruirait la ville et que la ville serait rasée, puis débarrassée de tous ses décombres, nettoyée et jetée à la mer, et qu'elle ne serait plus jamais reconstruite, qu'elle deviendrait simplement un petit lieu où les gens feraient sécher leurs filets de pêche. Eh bien, c'était une prophétie incroyable, car ce serait comme dire que dans quelques années, Los Angeles sera détruite, aplatie et poussée dans l'océan. Vous me direz, qui pourrait faire cela? Pensez-y, comme dans les temps anciens. La ville faisait 45 mètres de haut. 45 mètres de haut, avec 4,5 mètres d'épaisseur de muraille. Il y avait une armée massive qui protégeait l'intérieur des terres, et la meilleure marine du monde protégeait la côte. Les Phéniciens étaient là. Ils étaient les colonisateurs, les marins de l'Antiquité. Ils étaient des navigateurs. Ils avaient navigué autour du Cap de l'Afrique, établi des routes commerciales vers l'Est. 3 ans après la prophétie d'Ézéchiel, ce Nabuchodonosor est venu. Il a fait exactement ce qu'Ézéchiel a dit qu'il ferait. Il lui a fallu 13 ans pour le faire. Et à la fin, il a détruit les murs et brisé la tour. Finalement, il est entré dans la ville et il n'a trouvé aucun butin, parce que les gens avaient tout emporté par bateau sur une île. Alors, quand il est entré, il n'y avait ni gens, ni butin. Ils avaient tout emmené dans une île au large de la côte, parce que Nabuchodonosor n'avait pas de marine. Ils ont ri de lui et se sont moqués de lui. L'île était seulement à environ 1/2 mille de la côte, mais c'était trop loin pour qu'il l'atteigne. Nabuchodonosor rentra donc chez lui, et pendant 250 ans, la prophétie à propos de la suppression totale de la ville et de tous les décombres jetés dans la mer ne fut pas accomplie. 250 ans plus tard, vint Alexandre le Grand, fils de Philippe de Macédoine, conquérant mondial, avec ses 33 000 hommes d'infanterie, ses 15 000 cavaliers, ses 50 000 soldats. Ils arrivent dans cette zone, ils se dirigent vers l'est, conquérant le monde sur leur passage. Ils envoient un messager dans cette petite ville insulaire de Tyre et leur dire « Nous voulons de la nourriture, nous voulons de l'argent, nous voulons des provisions. » Et ils répondirent « Oublie ça, mon pote, Vous n'avez pas non plus de marine. » Ils renvoyèrent le messager, et Alexandre se mit en colère. Alors, il a pris tous les décombres dans la ville de Tyr, tous les décombres qui restaient, les a fait jeter à la mer, a construit une chaussée, les a démolis, et les a tous détruits. 250 ans plus tard, remplissant exactement ce qu'Ézéchiel avait dit qu'il se produirait. Il y avait environ 25 000 personnes sur cette île à l'époque qui ont été massacrées, et 30 000 de plus vendues comme esclaves. Il a tout fait en 7 mois. Et Ézéchiel a dit que la ville ne serait jamais reconstruite. Elle n'a jamais été reconstruite. Et juste pour faire une comparaison, Jérusalem a été reconstruite 17 fois, elle. La Bible a prédit la destruction de Ninive, qui est la capitale de la Syrie. Elle possédait un mur intérieur de 30 mètres de haut, 15 mètres d'épaisseur, des tours de 60 mètres de haut, 15 portes et un fossé de 45 mètres. La ville faisait 11 kilomètres de circonférence, possédait un double mur d'enceinte, 609 mètres à l'extérieur du mur intérieur. Il avait atteint son point culminant, en 663 avant Jésus-Christ. Nahum annonça sa destruction. Elle eut lieu. Les Babyloniens sont venus, sont entrés, l'ont prise. Elle ne fut jamais reconstruite. La Bible fait d'étonnantes prophéties, et vous pouvez vérifier qu'elles ont déjà eu lieu. On pourrait dire bien plus de choses sur ce livre. Lisez-le, et vous verrez qu'il est scientifiquement exact. Prophétiquement, il n'y a pas d'explication. Personne ne peut écrire l'histoire. Personne ne sait ce que l'avenir réserve, mais ce livre le fait. Ce livre a tapé, dans le mille, encore et encore. Et je ne vous ai donné que 2 prophètes parmi des douzaines et des douzaines. Pourquoi est-ce que je crois la Bible? Je crois la Bible à cause de sa précision scientifique. Je crois la Bible à cause de sa précision prophétique. Je crois la Bible à cause de son exactitude historique. Les archéologues ont trouvé toutes sortes de vérifications de l'exactitude absolue des Écritures. Je crois la Bible à cause de sa précision, selon mon expérience. Vous voulez que je vous dise? Elle me parle de moi, et je sais que c'est juste. Elle m'atteint au cœur et m'ouvre en grand. J'ai expérimenté son pouvoir dans ma vie. Mais plus que tout, je pense, dominant toutes ces raisons pour lesquelles je crois que Dieu a écrit ce livre, je crois à cause du seul thème singulier de ce livre, le Seigneur Jésus-Christ. Plus de 40 auteurs écrivant sur une période de 1500 à 1800 ans, dans toutes sortes de lieux et dans toutes sortes de contextes, n'aurait jamais pu maintenir seule la continuité de la gloire, de la majesté et de l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, de la Genèse à l'Apocalypse. Ceci est un livre écrit par un auteur sur une personne. Jésus a dit « Cherchez dans les Écritures, car en elles vous découvrirez qui je suis. » Chaque livre indique quelque chose à propos du Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, il en est le thème. Lui-même, sur la route d'Emmaüs, dans Luc 24, a ouvert la Bible et a commencé à parler de choses le concernant à partir de l'Écriture, de la loi, des prophètes et des écrits. Vous étudiez la loi, et il est celui que la loi indique. Il est celui qui remplira toute la loi. Il est le sacrifice parfait, qui supportera tous les péchés. Il est celui dont les prophètes ont parlé. Il est celui qui doit être loué dans tous les écrits sacrés. Il est celui qui est la sagesse personnifiée. Il est le thème des évangiles. Sa vie à venir, sa mort, sa résurrection sont le sujet des épîtres. Il est le roi de l'Apocalypse. Le thème dominant de Jésus-Christ est celui de la paternité divine. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les êtres humains ne pourraient jamais concevoir une telle personne. C'est au-delà de la capacité humaine. Regardez les dieux des nations. Regardez les dieux des religions païennes. Ils sont comme des hommes. Il n'y a pas d'explication pour Jésus-Christ autre. Qu'il est celui qu'il a dit qu'il était. Il est ce que Dieu a dit qu'il est. Il est Dieu fait chair. Il n'y a pas d'autre explication dans la Bible, si ce n'est que Dieu l'a écrite. Rien d'autre n'explique sa précision scientifique. Rien d'autre n'explique sa précision prophétique. Rien d'autre n'explique sa précision spirituelle et pénétrante, et sa capacité à transformer des vies. Rien d'autre n'explique les miracles, du début à la fin de ce livre, vérifiés par des témoins oculaires. Et rien d'autre ne peut expliquer le Christ, cette personnalité monumentale, inexplicable et inconcevable, qui ne pouvait être le produit d'aucune imagination humaine, sans parler de l'imaginaire collectif de plus de 40 écrivains différents partout dans le monde. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est puissante. Et jusqu'à ce que vous découvriez ce qu'est ce document, vous ne serez jamais capable de lui donner l'assiduité nécessaire pour apprendre tout ce qui y est écrit, afin que vous puissiez prospérer et avoir du succès. Eh bien, prions. Père, nous savons que les hommes et les femmes cherchent à changer leur vie, à transformer leur vie. Et tu nous dis que la loi du Seigneur est parfaite, et qu'elle convertit totalement la personne intérieure. Les gens cherchent la sagesse, et tu nous dis que cette parole rend les gens simples sages. Les gens recherchent la joie et le bonheur, et tu nous dis que ta parole est juste, réjouit le cœur. Les gens aspirent à voir clairement dans les ténèbres de la vie et de la mort, et tu nous dis que ta parole éclaire les yeux. Et les gens sont à la recherche d'une source constante de vérité. Et tu nous dis que ta parole est éternellement vraie. Ô Dieu, quel trésor que nous tenons dans nos mains, quel trésor béni que nous détenons dans ce livre. Job a dit qu'il l'aimait plus que sa nourriture nécessaire. Le psalmiste a dit que c'était plus précieux pour lui que l'or, oui, que beaucoup d'or fin, et plus doux que le miel du nid des abeilles, parce qu'il contenait de la nourriture, de la protection, de la purification. Père, nous te remercions pour ce grand trésor, et nous voulons comprendre ce qui est ta parole pour nous, et qu'elle porte le pouvoir et la bénédiction d'une manière qu'aucun autre document jamais écrit ne peut le faire. Mais c'est à nous d'ouvrir ces trésors, de les fouiller, de les étudier avec assiduité. Puissions-nous comprendre ce que nous avons, comme l'a dit Paul à Timothée, le trésor qui nous a été confié, et exploiter ses richesses pour notre bien. Notre bénédiction et ta gloire. Au nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.